RFI, 22h à Paris, 21h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Fin du sommet européen à Londres sur la sécurité européenne et sur l'Ukraine. Le Premier ministre britannique Keir Starmer affirme que plusieurs pays sont prêts à former une coalition de volontaires au niveau européen pour venir en aide à l'Ukraine. À suivre la correspondance de Sarah Menaille. Israël suspend l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza pour faire pression sur le Hamas. L'ONU, l'Union européenne, le Qatar, les ONG demandent le retour de cette aide. En Inde, New Delhi arrive régulièrement en tête des palmarès de villes les plus polluées de la planète. Mais à partir du mois d'avril, les véhicules de plus de 15 ans ne pourront plus faire le plein de carburant dans la capitale. Une mesure qui, parmi les habitants, fait débat, vous l'entendrez.
RFI.
Il faut d'urgence réarmer l'Europe. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la Commission européenne ce soir à la sortie du sommet de Londres sur la guerre en Ukraine et la sécurité européenne. Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle allait présenter un plan global sur la manière de réarmer l'Europe dès ce jeudi, lors du sommet spécial de l'Union européenne sur la défense. Elle a aussi parlé de discussions bonnes et franches des 18 dirigeants de pays alliés réunis autour du président ukrainien, évoquant le besoin de garanties de sécurité globale pour l'Ukraine dans l'avenir. Un président très entouré dès son arrivée samedi à Londres, après ses déboires vendredi à la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs dit après le sommet qu'il se sentait puissamment soutenu par l'Europe. À Londres, la correspondance de Sarah Menaille.
C'est d'abord au 10 Downing Street que Volodymyr Zelensky aura trouvé du réconfort, accueilli chaleureusement par Keir Starmer. Il y aura ensuite eu les bras du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui a pris le président ukrainien dans ses bras à son arrivée à Lancaster House. Et puis il y a surtout eu les mots de ses homologues européens. L'Europe se tient aux côtés de l'Ukraine, c'est finalement le message qu'auront voulu faire passer la douzaine de dirigeants réunis à Londres. Autour de Volodymyr Zelensky et de Keir Starmer, il y avait notamment Emmanuel Macron, mais aussi le Premier ministre norvégien, le Premier ministre polonais, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a justement déclaré « Nous voulons que les États-Unis sachent que nous sommes prêts à défendre la démocratie ». Volodymyr Zelensky était ensuite attendu au château de Sandringham, à l'est de l'Angleterre, pour y rencontrer le roi Charles III, qu'il avait déjà rencontré l'an dernier, et qui, depuis le début de son règne, ne cesse de soutenir le président ukrainien. Sarah Menaï, Londres, RFI.
Keir Starmer a indiqué que la Grande-Bretagne était prête à déployer des avions dans le cadre d'une opération de maintien de la paix en Ukraine. L'Europe doit faire le gros du travail en Ukraine, mais avec le soutien des États-Unis, a-t-il insisté. Les États-Unis où Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, laissait ce dimanche planer l'idée que Volodymyr Zelensky devait peut-être partir. « Nous avons besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous, traiter avec les Russes à un moment et mettre fin à cette guerre. » Fin de citation. Israël a annoncé aujourd'hui stopper les aides humanitaires vers Gaza. Une décision prise alors que les négociations sur la suite à donner à la première phase de la trêve patinent. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a aussitôt appelé au rétablissement immédiat de l'aide humanitaire. L'Union européenne met en garde Israël contre les conséquences humanitaires du blocage. Et le Qatar, comme le Hamas, parle d'une violation flagrante de l'accord de trêve. L'annonce a évidemment aussitôt alarmé les ONG présentes sur le terrain. C'est le cas de Solidarité Internationale. Philippe Bonnet est le directeur des urgences en charge de la coordination de l'aide humanitaire à Gaza. Il estime que l'aide qui entrait grâce à la trêve n'était déjà pas suffisante et il fait part de son inquiétude à Amira Souilem.
Nous avons été très déçus et surpris par cette décision. Solidarité avait justement un fret qui devait arriver d'Amman aujourd'hui et donc qui n'arrivera pas. Évidemment, là, on est devant le fait accompli. On est très inquiet, notamment pour l'approvisionnement en fuel. Il y a des consommations importantes. Il y a quasiment un flux tendu d'approvisionnement en carburant. Donc, s'il s'arrête, il y a le risque que tout ce qui a besoin d'électricité, parce qu'il y a plus d'électricité dans la bande de Gaza autrement que celui qui est apporté par les générateurs ou les panneaux solaires. Mais le risque, c'est par manque de fuel. Les stations de traitement d'eau, en ce qui nous concerne, vont s'arrêter, vont plus pouvoir fonctionner. Les hôpitaux n'auront plus d'électricité. Enfin, voilà, il va falloir qu'il y ait des pressions qui se fassent de la communauté internationale sur les Israéliens pour permettre la réouverture de ces points de passage, qui est une obligation dans le cadre du droit humanitaire.
Philippe Bonnet, joint par Amira Souilem. En Iran, le Parlement révoque le ministre de l'économie, Abdel Nasser Emati, en poste depuis le mois d'août. Faisait face à une forte dépréciation de la monnaie nationale, le rial iranien, qui s'est accéléré depuis l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump. L'inflation très forte pèse aussi lourdement sur les ménages depuis 2019. Elle est supérieure à 30% par an et a atteint 44,5% en 2023. Élection législative au Tadjikistan ce dimanche. C'est le parti du président au pouvoir depuis 1992 qui devrait logiquement avoir la majorité. Le scrutin intervient un mois après la condamnation de 9 responsables politiques de l'opposition et de journalistes à des peines allant jusqu'à 27 ans de prison dans une affaire tenue secrète. Ce dimanche, les observateurs internationaux de l'OSCE étaient absents, faute de garantie formelle d'être en mesure de mener à bien leur travail. À New Delhi, la capitale de l'Inde, la pollution de l'air reste un fléau. La mégalopole avec ses 30 millions d'habitants arrive régulièrement en tête des palmarès des villes les plus polluées de la planète. Dans le cadre d'un plan destiné à réduire la pollution, à partir du mois d'avril, les véhicules de plus de 15 ans ne pourront plus faire le plein de carburant à New Delhi. Notre correspondante Léa Ojal a demandé aux habitants de la capitale indienne ce qu'ils pensaient de cette nouvelle mesure.
Devant une station d'essence à New Delhi, les conducteurs défilent. À bord de sa voiture, Vinat Kumar, la quarantaine, patiente sous un soleil de plomb. Pour cet Indien, cette mesure n'est pas suffisante pour lutter contre la pollution.
La plupart des véhicules sont détenus par des particuliers comme vous et moi. Ils sont en bon état et ne sont pas prêts à être amenés à la casse. Le système d'évaluation de la pollution à Delhi est dépassé. Bien sûr, il y a énormément de véhicules à Delhi, mais les voitures ne sont pas les seuls responsables de la pollution de l'air.
À New Delhi, la pollution de l'air contraint chaque année ses autorités à fermer les écoles. Pour Falgunmi Yulman, limiter les vieux véhicules est un premier pas.
Je pense que c'est une bonne décision puisque partout dans les médias, ils parlent de la pollution de l'air à Delhi.
Des dispositifs seront installés dans les stations-service de la capitale pour identifier les véhicules trop vieux, a annoncé le ministre de l'Environnement. Selon l'OMS, 12 000 personnes meurent chaque année de la pollution à Delhi. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
À La Réunion, la route du littoral reliant l'ouest au nord de l'île a été réouverte à la circulation. Sur l'île de l'océan Indien, l'heure est au nettoyage après le passage du cyclone Garance qui a fait 4 morts et 5 blessés. Les réseaux électriques sont en train d'être progressivement mis en route. 90 000 personnes, soit 21% des abonnés, sont toujours privés de courant. L'accès à l'eau reste aussi perturbé. La préfecture a mis en place une cellule et 60 citernes ont été déployées sur l'île. 65 000 personnes sont encore privées d'eau. Dans le nord du Japon, des milliers d'habitants ont dû être évacués pour cause de feux de forêt. Des feux qui ont commencé mercredi, tuant au moins une personne et ravageant une zone d'une taille inédite depuis 1992. Selon la presse, 1800 hectares sont touchés. L'année 2024 avait été la plus chaude jamais enregistrée au Japon. RFI, 22h08 à Paris, c'est le français Fabien Doubet qui a remporté ce dimanche le Tour du Rwanda. Il faut dire que la 7e et dernière étape a été annulée en raison de la pluie et des routes glissantes à Kigali. Bravo donc à Fabien Doubet. C'est l'occasion de parler du carbone, le carbone dans le sport, un matériau que l'on retrouve entre autres dans les vélos, mais pas seulement. Matériau très apprécié, mais dont le bilan sur l'environnement n'est pas des meilleurs. François-Damien Bourgerie.
Cadre de vélo, palme de plongée, la fibre de carbone inonde l'industrie du sport, au point qu'elle en serait le troisième secteur le plus friand derrière l'aéronautique et l'éolien. Il faut dire que ce matériau a de quoi séduire. Ultra léger, il est aussi prisé pour son élasticité, c'est-à-dire sa capacité à retransmettre l'énergie. Jean-François Gérard, directeur adjoint scientifique de l'Institut de chimie du CNRS.
Une perche que vous pliez, ça veut dire qu'elle ne va pas consommer de l'énergie dans sa pliure, elle va la rendre au moment du saut, par exemple. Vous avez déformé et elle vous rend l'énergie.
Problème, de tous les matériaux utilisés dans le domaine du sport, la fibre de carbone est l'un des moins durables. Chaque tonne produite génère jusqu'à 40 tonnes de CO2, c'est 20 fois plus que l'acier et 4 fois plus que l'aluminium. Des initiatives, notamment en termes de recyclage, commencent donc à émerger pour limiter son poids sur l'environnement, mais elles restent timides. Aujourd'hui encore, 90% des produits en fibre de carbone finissent incinérés ou enfouis.
François-Damien Bourgerie, le tout carbone dans le sport, une tendance qui pèse sur l'environnement, c'est aussi un article à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Enfin, après 45 jours de voyage, un robot s'est posé sur la face nord-est de la Lune. Le Blue Ghost Mission 1 s'est posé à 8h34 du matin, temps universel. Il avait été lancé par une entreprise privée pour le compte de la NASA. C'est la deuxième fois qu'un appareil privé réussit un alunissage. Blue Ghost doit entre autres étudier la poussière de la Lune. RFI, 22h10 à Paris.